Magnifier, pour t'adorer. Toi notre rocher, toi notre rempart, toi notre abri, toi notre soutien. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, tu es tout pour nous, Seigneur. C'est dans ta présence que nous trouvons notre paix, notre repos, notre joie, Seigneur. C'est auprès de toi que nous sommes affermis, réconfortés, fortifiés, Jésus. Oui, nous aimons ta présence, nous aimons tes parvis, nous aimons ta maison, Seigneur. Nos âmes t'adorent, Père, nos cœurs te louent dedans de nous, Seigneur, nous te magnifions, car tu es tout pour nous. Seigneur, ce matin encore, nous avons soif de toi, Père. Ce matin encore, nous soupirons et nous désirons après ta parole. Seigneur, que ta parole soit semblable à cette semence que tu vas jeter dans nos cœurs, qui va germer, qui va porter de fruits. Je te prie, précieux Saint-Esprit, toi qui connais nos cœurs, toi qui nous sondes, toi qui connais nos besoins, toi qui connais véritablement ce dont nous avons besoin, je prie que tu nous parles. Parle-nous, Saint-Esprit, parle-nous, Saint-Esprit. Je prie que quelqu'un soit fortifié ce matin. Je prie que quelqu'un soit encouragé ce matin. Je prie que quelqu'un soit relevé ce matin. Je prie, ô Dieu, que les larmes puissent sécher des yeux de quelqu'un. Père, nous avons soif de toi. Nous nous laissons, Seigneur, à la liberté de l'Esprit. Conduis-nous selon ce que tu as prévu pour ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Déjà, le dimanche passé, nous avons parlé de ce thème. Ne tue pas ton propre fils. Et aujourd'hui, je vais apporter un message qui sera un peu comme une suite de ce que nous avons vu le dimanche passé, comme vous avez deviné en lisant le thème qui est le suivant. Que faire quand on a tué son propre fils? Que faire quand on a tué son propre fils? Je vais nous inviter à lire quelques textes dans la Bible. Le premier se trouve dans le premier livre de Rois. C'est notre texte de base. Nous l'avons lu le dimanche passé. Nous allons le relire. En Rois, le chapitre 3e, nous lirons du 16e au 28e verset. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit : Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, L'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'en craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Notre deuxième texte se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 8e, du 1er au 11e verset. Jean 8, 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, ils se levèrent et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et notre troisième texte se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 13, du 6e au 9e verset. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. » Ce matin, j'aimerais que par la grâce du Seigneur, que nous puissions aller dans le coulisses de ce passage de 1 Roi chapitre 3e, où on voit le roi rendre son jugement, le roi Salomon. Et nous sommes tous d'accord quand on médite ce texte, que ces deux femmes ont toutes deux perdu quelque chose de précieux qu'elles avaient. Quelque chose de cher que le Seigneur leur avait confié. Mais ils l'ont perdu. Et deuxièmement, nous sommes tous d'accord que cela est arrivé par leur propre faute, par leur propre erreur. Elles se sont laissées aller au sommeil, comme on a dit le dimanche passé, à l'imprudence, au manque de vigilance, au manque de responsabilité, à la distraction, à la négligence, bref, au sommeil. Et elles ont perdu leur héritage par leur propre faute. Mais mes frères, nous devons tous savoir, connaître une vérité fondamentale. Et la vérité, c'est celle-ci. L'erreur est inhérente à la nature humaine. Aucun être humain n'est épargné des erreurs. Nous commettons tous de fautes. Nous commettons tous des erreurs. C'est attaché à notre nature. Nous avons tous des failles. Si vous lisez Jacques dans son troisième chapitre, le verset deuxième, l'apôtre dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Les uns branchent d'une manière, les autres d'une autre manière. Mais nous tombons tous, nous branchons tous, nous commettons tous des erreurs. Et français courant dit du même passage, nous commettons tous des erreurs, des biens, des manières. Alors à ce niveau, la question serait laquelle? La question serait celle-ci. Pourquoi est-il donc important de le savoir? Cette vérité que je qualifie de fondamentale, c'est-à-dire l'erreur étant attachée à la nature humaine. Pourquoi c'est si important que nous puissions le savoir? Pourquoi nous devons l'intégrer? Pourquoi nous devons faire asseoir cette vérité au-dedans de nous et ne pas l'ignorer? Il y a quatre choses que je vais donner comme élément de base. Premièrement, cette conscience de l'éventualité de commettre des erreurs, premièrement, ça nous rend conscients de nos limites et ça nous garde humbles et dépendants de Dieu. Quand je sais que je suis faillible, quand je sais que ça peut m'arriver aussi de tomber, quand je sais que ça peut m'arriver aussi de commettre des erreurs, quand je m'en rends compte, quand je le réalise, quand c'est inscrit dans mon cœur, quand je ne l'ignore pas, mes frères, cela me rend conscient de mes limites. Je sais que je suis limité à un certain niveau. Je sais que je ne suis pas un être parfait. Et dans mon cœur, ça crée de l'humilité. Et ça me garde dépendant de Dieu. Seigneur, si tu me laisses, je n'arriverai pas. Seigneur, si tu me laisses, je ne m'en sortirai pas. Je sais que je ne pourrai pas par moi-même. Et le Seigneur Jésus-Christ de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Romains 12, 3, l'apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Ne vous surestimez pas. Cette femme qui a perdu sa femme, son enfant, plutôt son fils, elle pouvait aussi se dire, je sais comment je dors. Je sais que je ne me tournerai jamais jusqu'au point de dormir sur mon enfant. C'est des choses qui ne m'arrivent pas. Elle n'était peut-être pas à son premier accouchement. Elle avait peut-être déjà eu des enfants. Elle avait peut-être déjà une certaine maîtrise dans la prise en charge des bébés. Je sais quand je me tourne là où je m'arrête. Je connais mes limites. Elle se serait peut-être dit ça, mais elle était surprise de se rendre compte qu'elle était déjà sur son enfant. Et la deuxième, celle qui s'est fait voler son enfant, pouvait se dire aussi, je sais que je ne supporte pas les bruits. Dès qu'il y a un bruit, je sursaute et je me réveille. personne ne touchera à mon enfant. Mais elle était surprise en ouvrant les yeux que ce que Dieu lui avait donné n'était plus là. Mon frère, à chaque fois que tu te surestimes, tu seras étonné de te rendre compte que tu n'es qu'un homme faillible. Et c'est la même chose qui est arrivée à Samson. Alors que Dalila insistait, Samson, dis-moi ton secret. C'est où que réside ta force? Dis-moi comment on doit te dompter. Dis-moi comment on peut te maîtriser. Alors Samson s'est mis à s'amuser avec elle. Elle lui a dit des mensonges. Il faut m'attacher par des cordes sèches. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Et à chaque fois la femme essayait. Et quand elle le ligotait, la femme s'écriait: Samson, les Philistins sont sur toi. Et la Bible dit Samson sursautait. Elle se réveillait. Elle se mettait à frapper le Philistin. Et à tout le coup c'était le cas. On n'arrivait jamais à la voir. Mais la Bible dit que la femme insistait, Samson, si tu m'aimes, oh les femmes, si vraiment tu m'aimes, Samson, prouve-moi que tu m'aimes. Ma soeur, tu n'as pas besoin de le prouver que tu l'aimes, il n'a qu'à croire. Oui, si tu m'aimes, je veux seulement, non frère, attends. Samson, dis-moi, si tu m'aimes, convainc-moi que tu m'aimes. L'accent de Boulingrangaï. Et la Bible dit que Samson en avait jusque-là. Et finalement, la Bible dit que Samson lui a ouvert son cœur et lui a dit, voilà, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Le jour où mes cheveux seront coupés, ma force me quittera et je deviendrai semblable à tout autre homme. Et là, Dalila envoie des messagers chez les Philistins, chez les princes des Philistins. Venez, car cette fois-ci, il m'a ouvert son cœur. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare que Dalila a couché Samson sur ses genoux. Encore une fois, le sommeil. Samson s'est endormi sur ce genou. Et Dalila appela quelqu'un qui lui rasa la tête. Mais le sommeil était tellement profond que Samson ne se rendait même pas compte que ses cheveux étaient en train de tomber. Pendant que tu dors, tes ennemis travaillent. Et tes cheveux, les uns après les autres, tombent. Mon frère, réveille-toi avant que cela ne soit trop tard. Ses cheveux, comme je dis, les uns après les autres, tombaient. Samson ne se rendait pas compte. Il était parti. Seigneur, préserve-moi de telles distractions. Que je me rende compte quand des choses commencent à partir. Que je me rende compte quand je ne suis plus le même. Père, avant que les autres ne le remarquent, que je le remarque moi-même. Je ne veux pas être surpris que le sommeil ne m'emporte pas à ce point. Et quand la femme a fini, quand il n'y avait plus un seul cheveu sur le crâne de Samson, elle se cria: Samson, lève-toi, les Philistins sont sur toi. Le temps que Samson se réveille, c'était tard. Les Philistins étaient déjà là. Et écoutez ce que Samson se dit: je m'en tirerai comme les autres fois. Mais il ne savait pas que le Seigneur s'était déjà éloigné de lui. Père, rends-moi sensible à ta présence. Rends-moi sensible à ton onction. Dès l'instant que tu commences à partir, que je me rende compte. La Bible dit, Samson ne se rendait pas compte. Il ne savait pas que Dieu était déjà parti. Combien ne sont plus avec le Seigneur, mais ils ne le savent pas. Et il continue à servir, il continue à prêcher, il continue à chanter, il continue à faire des choses, mais par eux-mêmes, parce que Dieu n'est plus là. Et même au lieu d'être humble et d'aller chercher le Seigneur, il commence à fabriquer. On m'a parlé d'une église aux États-Unis où, quand le culte commence, il y a des effets spéciaux dans la salle, des lumières et une certaine musique, et puis il y a des fumées qui montent. Un peu pour donner une illusion de la gloire, de la nuée, de la Shekinah de Dieu. Non, cherchons le vrai. Mais encore faudrait-il que l'on se rende compte que le vrai n'est plus, que nous l'avons perdu. Samson se disait en lui-même, je m'en tirerai comme les autres fois. C'est le genre de choses qui ne m'arrivent pas. Ça arrive à tout le monde. Moi, je suis Samson. Frère, ne te surestime pas. Même les Samson peuvent tomber. Même les Samson peuvent se retrouver par terre. C'est que Dieu a placé en toi. Tu peux le perdre. Ma soeur, ton mari plutôt, tu peux le perdre. Vous savez, les femmes de foi pensent que puisque leurs époux sont des chrétiens, c'est assurance vie. Samson, ça n'arrive qu'aux autres. À moi, ce genre de choses ne peuvent pas arriver. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises, ce qui arrive aux autres peut aussi t'arriver. Savoir que nous sommes des êtres faillibles nous rend conscients de nos limites et nous garde humbles et connectés à Dieu et dépendants de Dieu et attachés à Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? La deuxième chose que cette conscience produit en nous, c'est qu'elle éveille notre prudence et nous préserve de la chute. Si Samson pouvait savoir qu'il n'était qu'un homme et que sa force dépendait de Dieu, il allait être sage, il allait être prudent. À un moment donné, à force d'être utilisé par le Seigneur, on commence par croire que ce n'est plus Dieu, mais c'est nous-mêmes. On commence à penser que ce que je fais, c'est par ma propre force. Dieu t'a tellement donné des succès. Dieu t'a tellement donné des réussites. Que tu commences à penser que ce que tu le fais par toi-même. Israël monte contre Jéricho avec Josué. Dieu leur a dit, vous n'allez rien faire. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons développer cela le dimanche prochain. Tournez seulement autour. Ne faites rien. Le premier jour, tournez une fois. Le deuxième jour également, le septième jour, vous allez tourner sept fois à la septième fois, pousser des cris, sonner des trompettes. Et le mur va s'écrouler. Et Israël s'en va en guerre. Ils obéissent aux directives de Dieu. Et le muraille s'écroule. Ils remportent la victoire. Une merveilleuse victoire. Et voilà que quelque temps plus tard, ils doivent aller livrer une autre bataille, cette fois-ci contre Haï. Israël part en guerre le premier jour. Il retourne vaincu. Et Josué déchire ses vêtements. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi tu nous as laissés? Israël tombe dans un piège. Il oublie qu'il est dépendant de Dieu. Que sa force ne lui vient pas de lui-même. Mais c'est Dieu qui est la source de sa force. Israël oublie de consulter le Seigneur. Israël oublie de chercher les directives de Dieu. Il veut faire des choses par lui-même. Il est habitué à gagner. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas par tes propres forces que tu arrives à faire ce que tu fais. C'est la faveur de Dieu sur toi. Reste prudent, ça va te préserver de la chute. Troisième chose que cette conscience apporte en nous, c'est qu'elle t'évite de sombrer dans le découragement et dans la dépression. Nous allons revenir tout à l'heure et nous allons entrer dans les détails. Mais retenez quand même ce point. Je dis que ça t'évite de sombrer dans le découragement et dans la dépression. Et quatrième chose que cela fait en nous, c'est que cette conscience de notre vulnérabilité nous rend clément vis-à-vis des autres. Combien il nous arrive d'être dur avec ceux qui commettent des erreurs. Mais quand on sait que ce qui lui est arrivé peut aussi m'arriver, et même que cela m'est déjà arrivé. C'est les pharisiens, les scribes amènent la femme devant Christ et lui disent, maître, cette femme a été surprise en adultère. C'est un cas de flagrance. Et le Seigneur leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Qui n'est jamais tombé dans une erreur? Qui n'a jamais connu d'échec? Qui n'a jamais péché? Alors pourquoi voulez-vous agir comme si ce qui est arrivé à cette femme, d'une manière ou d'une autre, dans une forme ou sous une autre forme, ne vous est jamais arrivé? Quand la personne qui est capable de dire cela, alors qui jette en premier la pierre? La Bible dit du plus petit au plus grand, ils ont laissé tomber leur pierre et ils sont partis. Frère, ce qui arrive à ton frère peut t'arriver aussi. Et quand tu en as la conscience, tu seras clément le jour où tu apprendras ce qui lui est arrivé. Le jour où tu seras au courant de ses erreurs, tu seras clément. Vous savez, Dieu a changé ma façon de regarder ceux qui tombent. Je connus le Seigneur, j'étais très jeune. Vers les années 86, 87, 88. Imaginez-vous. Et j'étais très zélé pour les choses de Dieu. Je servais déjà le Seigneur, très impliqué dans l'œuvre de Dieu. Et puis vers les années 92, 93, 94, adolescent, les impulsions commençaient à bouger, à bouillonner au-dedans de moi. Le vent de l'adolescence m'a emporté. Je me suis retrouvé dans le monde, dans la mondanité, complètement. Et c'est là que je connus même des choses que je n'avais jamais connues avant que je ne connaisse Christ. Je commençais à prendre la bière. Je commençais à courir les jupons. Des choses que je n'avais jamais connues avant. Je me rappelle, il m'est arrivé même une fois de me retrouver dans une boîte de nuit. D'abord pour quelques minutes seulement, je n'avais pas traîné. Et puis qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur a parlé à mon cœur? Je me suis repenti, je suis revenu au Seigneur. Et Dieu m'a restauré, le Seigneur m'a renouvelé, il m'a redonné des choses que j'avais perdues. Et depuis ce temps-là, mes frères, je regarde autrement ceux qui tombent. Je me garde de frapper sur la tête de ceux qui tombent, parce que je sais que ça m'est arrivé aussi. Et si le Seigneur m'a relevé, c'est que Dieu peut aussi le relever. Et depuis, je prie avec ceux qui tombent. J'encourage ceux qui tombent. Je fais de mon mieux pour les aider à se relever. Dieu m'a permis d'être clément. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis passé par là. Savoir que l'on est faillible te donne d'être clément envers ceux qui commettent des erreurs. Comme je disais ce matin, nous allons un peu aller derrière les rideaux de ce qui se passe dans ce texte de 1 Roi 3. Le roi Salomon vient de rendre son jugement. Le verdict est tombé. Et tout le monde est impressionné, comme nous dit la Bible. Ouh, quelle sagesse le roi Salomon. Le peuple acclame. Le peuple est impressionné. La Bible dit, depuis ce jugement, on craignit le roi à cause de sa grande sagesse. Et comme ça se passe dans des royaumes, j'imagine les trompettes qui sonnent et quelqu'un qui s'écrie, le roi quitte la cour. Et tout le monde se lève. Et quand le roi sort, tout le monde s'incline. Le roi est parti. Et quand le roi part, nous nous retrouvons avec trois types de gens. Trois types de personnages. Le premier type, nous avons d'un côté la femme qui a récupéré son fils. Quand le roi a dit, donnez à celle qui ne veut pas que son enfant meure, c'est elle qui est la mère. J'imagine cette femme, elle a son enfant entre ses bras. Elle avait peut-être perdu l'espoir de la récupérer, surtout quand elle a vu l'épée venir. Elle récupère son enfant. Vous pouvez imaginer combien ça fait du bien quand on retrouve quelque chose pour lequel on n'avait plus d'espoir. On ne pensait plus que ça allait revenir. Ces fiançailles déjà cassées depuis plusieurs années. Et un bon matin, tu reçois un coup de fil et c'est la même voix. Tu as l'impression de rêver, mais tu te rends compte que c'est vraiment lui, c'est vraiment elle. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Elle est revenue, il est revenu. Cet homme qui est parti de la maison, laissant femme et enfant. Et un beau jour, vous entendez quelqu'un frapper à la porte, vous ouvrez, vous le voyez lui, il revient. Combien le cœur est rempli d'émotions. Combien on est heureux, combien on bénit Dieu. Alors, la femme ayant son enfant, le cœur rempli de joie. Je l'imagine en train de sauter, en train de louer Dieu, en train de bénir le Seigneur. Ce contrat Tu étais déjà sur le point de le perdre. Et tout d'un coup, les choses changent sans que tu ne comprennes quoi que ce soit. On revient encore vers toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, mais on sent qu'on doit seulement revenir vers toi. Combien le cœur est rempli de joie. Et je m'imagine la femme en train de se dire en elle-même, je ne serai plus jamais négligent. Je ne dormirai plus jamais comme avant. Désormais, je veillerai à ce que les portes soient bien fermées, que les fenêtres soient bien verrouillées, que des décisions. Je serai désormais une mère responsable. Je te promets d'être désormais une femme sage. Et elle priait, Seigneur, je ne ferai plus jamais ça. Alors elle est en train de partir avec son enfant. Vous savez, je me demande si la première nuit, elle a dormi cette femme. Elle restait éveillée en train de contempler son fils. Hé, Azungiku. Mais d'un autre côté, il y a les spectateurs. C'est-à-dire tous ceux qui ont assisté au jugement. Tous ceux qui étaient là. Tous ceux qui habitent la même ville que ces deux femmes. Et ces gens-là, ces types de personnes, ils ont deux regards par rapport à ces deux femmes. Par rapport à la première femme, il y en a qui se réjouissent avec elle parce qu'elle a retrouvé ce qu'elle avait perdu. Il y a toujours des gens qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Ah, elle a retrouvé. Alors ils se réjouissent avec lui. Ah, il a trouvé de l'emploi. Pendant longtemps, il était dans le chômage, mais Dieu l'a visité. Alors tu le vois venir, il se réjouit avec toi. Ah, il était au couloir, mais finalement, on s'est souvenu de lui. Alors ils viennent le visiter, ils se réjouissent, ils sont dans la joie. Mais il y en a d'autres, par contre, qui ne sont pas dans la joie du tout. Vous savez, il y a des gens comme ça, tu lui annonces une bonne nouvelle. Voilà, j'ai retrouvé mon enfant. Et tu t'attends à ce que la personne dise, oh mais c'est vrai, mais Dieu est bon pour toi. Mais, ah, on y est. Il y en a qui étaient mécontents. Ils auraient voulu qu'elle ne retrouve jamais son fils. Frère, il y a des gens qui aiment te voir souffrir. Il y a des gens qui aiment te voir pleurer. Quand tu es dans la joie, ils sont malheureux. Ils aiment te voir dans les pleurs. Et je me rappelle un jour, le pasteur Roland nous disait, méfiez-vous. Des gens qui ne viennent que vous encourager quand vous passez des moments difficiles. Mais ils ne sont jamais là pour vous féliciter quand Dieu vous visite. Mon épouse m'a parlé comme ça d'une personne qu'elle connaît. Quand elle s'était rendue compte d'une chose, quand elle lui avait annoncé quelque chose de mauvais, une mauvaise nouvelle, elle était très intéressée. Mais quand il fallait qu'elle lui annonce une bonne nouvelle, elle avait l'impression qu'elle était froide. On dirait, bon, les amaram na yo. Il y a des gens comme ça, ils veulent vous voir pleurer. Mais par rapport à la deuxième femme aussi, entre nous, nous devons reconnaître que cette femme, elle a d'abord tué son enfant par sa propre négligence. Et puis deuxièmement, au lieu de s'arrêter là, elle va voler la femme de la voisine. Et troisièmement, elle encourage le roi à tuer l'enfant. Et c'est cette catégorie de gens que je vois maintenant. Et quand elle regarde cette femme qui a tué son enfant, c'est avec mépris. D'ailleurs, elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Ouzoui. Makamoulukakit. Ouzobanayo. Quand on te parlait, tu ne voulais jamais écouter personne. Maintenant, tu payes tes propres erreurs. Il y a des gens qui sont là pour nous enfoncer. Je sais que c'est ma faute. Mais aujourd'hui, bon, bande la sauce. Il y en a d'autres qui l'a qualifié de n'importe comment. Monsieur Ndoki. Et vous savez, on est réputé par des étiquettes. Nous collons des étiquettes. Monsieur Nalela, comment est-ce? Et finalement, c'est toute la ville qui la connaîtra sous cette étiquette-là. Tu veux t'approcher? Papa, moi si on a là de la cabane. Hein? Oui, tout le monde te regarde comme ça maintenant. Et il y a des gens qui se plaisent à propager ce genre de nouvelles. Et des fois, même la famille souffre. Oh, Oyo bandeko ya mwasi oyo alale aka mwana. Je gérais un couple fiancé à Goma il y a quelques temps, quelques mois en arrière. Ils étaient fiancés. On a parlé avec eux. Ils étaient heureux apparemment. Quelques temps plus tard, je repars à Goma. Je le rencontre. Ils n'étaient plus ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je parle avec la sœur. Elle me dit, je ne sais pas. Moi, je dis, mais est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Est-ce que tu te reproches de rien? Je ne sais pas. Je ne vois pas ce que j'ai fait. Et je parle avec le monsieur, le frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez ce qu'il me dira? Il me dira, non, j'ai appris que sa mère a des mauvais comportements. Comment est-ce que vous avez dit Awan? Moi, je dis, mais sa mère, c'est pas elle. Non, bon, tout le monde me dit ce genre de choses, ça peut... Vous voyez comment on est victime de foi? Ce n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Mais puisqu'on est à côté de la personne, ça retombe aussi sur nous. Et quand on l'a regardé, des étiquettes, non seulement sur elle, mais sur son entourage. Ah, bon, Makaban. Et même s'il était permis de la lapider, j'imagine, il y en a plusieurs qui allaient les lapider. Et vous savez, quand on parle de ces choses, on a l'impression que c'est les autres qui le font. Mais en réalité, c'est nous qui le faisons. Je ne suis pas en train de parler de ton voisin, de ce que ton voisin fait, je suis en train de parler de ce que toi tu fais. Je suis en train de parler de ce que moi je fais. À ce niveau, j'aimerais dire trois choses. Vous savez, mes frères, nous voyons plus facilement les erreurs des autres que nos propres erreurs. Oui, nos yeux sont grandement ouverts sur les failles des autres. Nous avons tendance à voir cela facilement et même à insister dessus, à rester dessus. Mon frère, il nous arrive à nous tous de commettre des erreurs dans la vie. Pour certains, c'est flagrant, c'est visible, pour d'autres, c'est invisible. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on croit que tu es saint, que l'on croit que ça ne t'arrive pas. C'est parce que ce n'est pas visible. Mais ce n'est pas parce que pour lui ou pour elle, c'est visible que nous devons la tuer, la détruire. Elle a déjà perdu un enfant. Elle a déjà perdu ce qu'elle avait de précieux. C'est vrai, c'est par sa propre faute. Mais elle cherche des gens qui peuvent la soutenir. Vous n'avez aucune idée de combien ceux qui passent par des moments difficiles attendent qu'on vienne leur élever. C'est vrai, je fais des erreurs. J'ai perdu ce mari, il est parti. Mais ne venez pas m'achever. J'ai besoin de gens qui peuvent venir me dire, bon ok, ça va. Tu peux te relever, on va revenir tout à l'heure. Si vous regardez autour de vous et que vous regardez les gens autrement, vous considérez les gens autrement, vous allez entendre des cris au secours qui se lèvent de nos cœurs silencieux. Aidez-moi, ne me tuez pas. Mon fils est déjà parti, c'est de ma faute, mais aidez-moi. Mais nous nous écrasons les uns les autres. Nous nous détruisons les... Et moi, non, couf, il faut couf, caca. J'ai prié que le Seigneur puisse nous changer à l'église. Que l'on soit de ceux qui se soutiennent. La Bible dit que le fort relève le faible. Alléluia. Comme je disais, nous voyons plus facilement les erreurs des autres que les nôtres. Matthieu 7, 3, 5, la Bible dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille ?» de ton œil plutôt, toi, qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Deuxièmement, nous aimons porter au grand jour les failles des autres et cacher les nôtres. Vous savez, il y a un malin plaisir à parler de mauvaises choses qui est arrivé à quelqu'un. Hé, Mako, scoop, baboyanité. Nani, Adam et Eve. Oui, il y a des gens qui ont un malin plaisir. Mais c'est bien quoi? À quoi? Mais c'est bien dans la Moussa là, on a aussi là. Et ici là. Moi, c'est un prophète. Et on se sent bien à colporter ce genre de mauvaises nouvelles. Et vous savez, j'ai déjà eu à le dire une fois ici, cela est une preuve qu'en nous-mêmes, il y a des pires choses. Alors pour ne pas que le regard des gens soit fixé sur nous et qu'ils remarquent combien nous sommes mauvais, nous focalisons le regard de tout le monde vers quelqu'un d'autre. Et on insiste sur ces erreurs. Vous avez vu? Est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as entendu? Si tu pouvais couvrir ceux qui tombent, si tu pouvais couvrir, protéger ceux qui commettent des erreurs, ils sont déjà perdus. Ne les achevez pas. Ne soyez pas ceux qui propagent la mauvaise nouvelle. Et David, dans son oraison, il dit, n'en parlez pas aux filles de Philistins. Comment les héros sont-ils tombés? Saül et Jonathan, n'en parlez pas. Qu'ils n'apprennent pas cela. Et regarde comment nous réagissons quand on apprend qu'un frère est tombé dans un péché ou une sœur est tombée dans une erreur. C'est à l'église que la nouvelle se propage. Là où on devait nous protéger, là où on devait nous couvrir. Gérons ça entre nous, que les païens ne le connaissent pas. Mais c'est nous qui prenons de mauvaises informations dès l'intérieur de l'église et qui propageons dans le monde. Au lieu de propager l'évangile, nous propageons les mauvaises nouvelles de l'église. Nous propageons les erreurs. Oh, écoute, allez, qui m'en aille. Eh, maman diacre, quoi. Et il y a un malin plaisir à le faire. Je prie que Dieu nous délivre de cette chose. Écoutez les scribes et les pharisiens. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit. Cette femme, nous avons facile à indexer les autres. Troisièmement, alors que nous jugeons les autres sur leurs actes, nous voulons être jugés sur nos intentions. Oui, l'autre, je les juge sur ses actes. Je vois ce que tu as fait, tu n'as rien à me dire. Mais moi, je veux qu'on me juge sur mes intentions, pas sur mes actes. Non, j'avais cru que... Non, ce n'était pas ce que je voulais. Non, je ne voulais pas en arriver là. Alors je veux qu'on me considère par rapport à ce que j'avais au-dedans de moi. Mais moi, je regarde les autres par rapport à ce qu'ils ont fait. Tout le monde se comprend. Il veut être compris, mais personne ne veut comprendre l'autre. Tout le monde veut être excusé, mais personne ne veut excuser l'autre. Il y a une chose que nous devons savoir, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce d'apprendre à accorder à l'autre le droit à l'erreur. L'autre aussi a droit à l'erreur. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Et troisième type de personne, c'est finalement elle-même, la femme qui a écrasé son fils. Son fils est parti. Le jugement est rendu. C'est fini. Elle a perdu. Le mariage est brisé. Le fiançailles est rompu. Le travail est perdu. Je ne sais pas ce qui est encore arrivé. C'est fini, c'est arrêté. Et après avoir subi les moqueries, les mépris de l'entourage, elle se retrouve seule. Je me demande si elle a pu sortir de cette expérience. Mais la question que je me pose, est-ce que cette femme a vraiment voulu dormir sur son enfant? Est-ce qu'Alinga Kiango? Ce qui m'est arrivé, c'est vrai, j'ai commis des erreurs, mais est-ce que je l'ai fait sciemment? Est-ce que je l'ai voulu? Pourquoi me traitez-vous comme si je voulais moi-même écraser mon enfant? J'ai été emporté par le sommeil. Qui ne dort pas? Mais personne ne voulait l'entendre. Hey, Ndoki! Je la vois dans son coin en train de pleurer sur son enfant. Mais aussi en train de se poser mille et une questions. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi j'étais si dur avec lui? Pourquoi ai-je dormi cette nuit-là? Pourquoi ne l'ai-je pas placé dans son berceau? Pourquoi je l'ai eu avec moi? Pourquoi j'ai voulu être près de lui? Pourquoi j'ai fait ça? Elle se posait des questions, mais malheureusement, des questions sans réponse. Et ça nous arrive comme ça, on a envie de parler à tout le monde. Mais qui va nous écouter? Et elle pleure en elle-même. Mais quand elle sort, elle ne veut pas montrer à tout le monde qu'elle est blessée dans son cœur. Elle essuie ses larmes. Et on a l'impression qu'elle est forte, mais au-dedans d'elle, elle est brisée. Pourquoi elle fait semblant d'être forte? Parce qu'elle veut se défendre. Elle veut se protéger. Mais tout le monde sait qu'elle a une mauvaise vie. Mais quand elle est en public, elle donne l'impression d'être fière de ce qu'elle fait. Ou de ce qu'elle est. Dans son cœur, elle est brisée. Mais elle veut se protéger. De qui? De moi? De toi? Et ce genre de femme, dans le cas de ceux qui se trouvent, je veux dire, dans le cas de cette femme, il y a trois cas de figure que j'aimerais mentionner. Le premier cas de figure, dans ce genre de situation, on devient aigri, on devient amer, comme cette femme. Et la tendance, c'est de vouloir que l'autre aussi vive la même chose que j'ai vécue. Cet enfant ne sera ni à elle, ni à moi. Tuez-le! Ah! Est-ce que c'est moi qui ai couché sur ton enfant? On devient aigri et on veut que les autres aussi souffrent. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur, alors que j'étais encore à l'université, elle était séropositive. Et le jour où il a appris ça, il s'est mis à propager cela. Si moi je veux mourir, je ne mourrai pas seul. Aigri, amertume dans le cœur. Si j'ai raté ce fiancé, alors personne ne l'aura. Et on est là, derrière les couples d'autrui, jetant de mauvaises semences pour détruire. Pour séparer les gens, pour diviser les gens, prête à faire de mauvais rapports aux responsables hiérarchiques, pour que ce qui m'est arrivé lui arrive aussi. On devient brisé, on devient aigri, on devient amer. Que son enfant meure aussi. Tu me détestes, frère, seulement parce que j'ai ce que toi tu n'as pas. Est-ce que c'est moi qui ai fait que tu ne puisses pas l'avoir? Il y a des gens qui nous détestent comme ça. Parce que lui a raté ce que moi j'ai pu avoir. Et c'est fini. Cause de haine. Et il ne veut plus te sentir. Oh les cabouets. Maman n'a salué. Oh Nini. Si ton enfant est mort, et sa faute n'angaille, pourquoi tu me détestes à ce point? Et vous savez, quand il y a cette amertume dans le cœur, des fois on pose des actes conscients, des fois c'est des actes inconscients. Mais on devient amer. Et vous allez voir comme ça des gens qui ont détruit leur ministère, en train de propager des fois même des mensonges sur les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'ils perdent eux aussi ce qu'ils ont. Parce que moi j'ai perdu. J'ai entendu une histoire de quelqu'un qui faisait le pont entre une sœur et un monsieur qui voulait l'épouser. Et en train de raconter les mauvaises choses à ce monsieur pour que finalement, il finisse par arrêter avec la sœur. Il y a des gens comme ça malheureusement à l'église. Et des fois, on ne se rend pas compte. Mais c'est parce qu'on a cette amertume. Quand on veut tuer aussi, je prie le Seigneur, si tu es là ce matin, que tu te repentes. Mon frère, si par ta propre faute tu as écrasé ton enfant, j'y suis pour rien. Deuxième cas de figure, c'est des femmes comme ça qui écrasent leurs enfants. Ils ont tendance à vouloir accuser les autres personnes, accuser les tiers. Ce qui m'arrive, c'est par sa faute. C'est d'ailleurs mes parents. C'est d'ailleurs mon frère. On veut jeter la responsabilité sur les autres. On refuse d'assumer ses erreurs. Si je suis devenu comme ça dans ma vie, c'est à cause de ce monsieur-là. Sois un peu responsable. La Bible nous parle d'Adam et Ève quand ils sont tombés dans le péché. Dieu qui vient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam qui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et on parle à la femme dit c'est le serpent. Heureusement que le serpent n'avait pas une autre personne, ou sinon elle allait jeter aussi sur l'autre personne. C'est ce que nous faisons. Nous ne voulons pas assumer nos échecs. Nous ne voulons pas assumer nos erreurs. Et nous trouvons des cobayes, nous trouvons des gens accusés. Et des fois, nous voulons convaincre à cette personne-là que c'est vraiment à cause de toi que je suis ce que je suis aujourd'hui. Non, c'est tes propres erreurs. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Troisième cas de figure, c'est la tendance au découragement et à la dépression. Depuis que cet homme est parti, tu n'as pas arrêté de faire le deuil. Tu ne sors même plus de ta chambre. Il y a des filles comme ça. Depuis que ce fiancé a été brisé, elle ne se maquille plus du tout. Elle n'a plus goût à la vie. Elle déprime. Plus rien n'a de sens pour elle. Depuis que tu as connu cet échec, c'est fini, c'est la dépression. Tu sombres dans des angoisses. Tu n'as plus envie de rien. Tu es devenu maussade. Tu n'as plus de sourire, tu n'arrives plus à rire. Quand tu ris, on sait vite voir que c'est un faux rire. Et des fois même, quand on a écrasé son propre enfant, on tombe dans l'autoflagellation. On veut se punir. Combien ne sont pas allés jusqu'au suicide? Je n'ai plus rien à faire. J'ai perdu cet enfant. Je n'ai plus droit à la vie. Alors on va se pendre. Que des suicides aujourd'hui. À cause de dépression. Je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Je vois encore son visage. Je vois encore cette nuit-là. Je n'arrive pas à oublier. Je vois encore comment j'étais méchante envers lui. Je n'arrive pas à me pardonner. Pasteur Ken, je ne me pardonnerai jamais. Si, ma soeur, tu peux arriver. Et c'est l'autoflagellation. On s'insulte. Je ne suis qu'un nul. Pasteur, je ne suis qu'un incapable. N'avez-vous jamais vu des gens comme ça? Il ne croit plus en elle-même. Il ne croit plus en lui-même. Je ne suis qu'un bon à rien, pasteur. Et on tombe dans des complexes. Désormais, tu n'as plus le courage de repartir. Tu n'as plus le courage de recommencer. Il y a des gens qui sont restés comme ça seuls. Pourquoi? À cause d'une mauvaise expérience. Cette entreprise n'a pas marché. Tu n'as plus l'audace d'initier une autre entreprise. Le projet dans le cœur, mais tu le rejettes. Quand on te propose, tu ne veux rien entendre. Pourquoi? Parce que tu as perdu l'espoir, l'espérance. Quand je lis ce passage de Luc 13, 6 à 9, le serviteur dit, coupez cet arbre, ce figuier. Mais le vigneron répond, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je veux prendre soin. Écoute, bien-aimé, alors que tu ne crois plus en toi-même parce que tu t'es couché sur ton enfant, Dieu croit en toi. Le vigneron croit encore en toi. Tu peux repartir. Et quatrième cas de figure, c'est ceux qui savent faire le bilan et tirer des conséquences de leurs erreurs du passé. Qu'est-ce qui a fait que je couche sur mon enfant? Comment ça a commencé? Comment n'ai-je pas pu sentir quand ça venait? Regarde tes erreurs autrement. Que ça ne te tue pas. Que ça ne t'achève pas. Mais regarde ce que tu peux en tirer. Que ce ne soit pas un poids, mais sers-en comme un tremplin pour repartir. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Pourquoi il est parti? Pourquoi c'est arrivé? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Regarde, ça va t'aider. Tu es en train de t'équiper pour des prochaines victoires. Mais ne reste pas là. Faire le bilan, tourner la page et repartir. Alléluia. Repartir. La Bible dit dans 1 Samuel 16, 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta courne d'huile et va !» Alléluia. Saül, avec Saül, c'est déjà fini, Samuel. Arrête de pleurer. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, arrête ton deuil. Ce que tu as perdu, tu l'as perdu. Tu peux repartir. Remplis ta corne d'huile. Va, il y a David qui t'attend. Rebondis. Essuie tes larmes. Tourne la page. Ce qui est passé est passé. L'apôtre Paul dit, j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. L'avenir, ce n'est pas derrière, l'avenir, c'est devant. Nous ne pouvons rien faire avec ce qui est passé, mais nous pouvons tout faire avec ce qui arrive. Alléluia. Oublie cet enfant que tu as écrasé. Enterre-le. Fais le deuil. Et puis essuie tes larmes. Change tes vêtements et repars. La vie est devant. Dieu dit à Josué, Josué 1-2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Arrête de pleurer, Moïse. Il y a quelques déclarations que je vais faire et puis nous allons clôturer. Première déclaration. Tu ne peux plus rien faire avec ce que tu as perdu. Mais tu peux tout faire avec ce que tu as. Un jour, le pasteur Daniel Kawata nous donne son témoignage. Quand il a perdu son bras, il voulait commencer à s'apitoyer, à déprimer. Et c'est là que le Seigneur se révèle à lui pour lui dire, écoute Daniel, tu ne peux plus rien faire avec ce que tu as perdu, mais tu peux tout faire avec ce que tu as. Regardez combien c'est aujourd'hui pour lui une source de bénédiction, parce qu'il a cru que la vie c'est devant. Le bras qui est parti, c'est parti. Mais avec le bras que tu as, tu peux avancer. Cet homme fait des choses que plusieurs comme moi qui ont deux bras ne font pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux rebondir. Tu peux repartir. Arrête le deuil. Change tes vêtements. Essuie ton visage. Deuxième déclaration. Tu as certes commis des erreurs, mais ta vie n'est pas une erreur. Oui, tu as connu des échecs, mais tu n'es pas un échec. Oh, Jesus. J'ai envie de le dire très fort. N'arrête pas ta vie à cet échec-là. Ta vie ne se limite pas à un point d'échec. Ce n'était qu'une expérience. La vie est devant. Troisième déclaration. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera jamais. Ça n'a pas marché une fois. Ça n'a peut-être pas marché plusieurs fois. Mais tu peux essayer encore. Alléluia. Ce n'est pas une fatalité. Répare encore. Tu as investi une fois, ça n'a pas marché. N'aie même pas une croix sur les investissements. Tu peux repartir. Même au Christ Jésus, ça lui est arrivé. La Bible dit, il pria pour quelqu'un pour qu'il recouvrât la vue. La personne n'était pas guérie. Le Seigneur Jésus-Christ a touché une seconde fois. Mon frère, c'est possible qu'une fois ça ne marche pas, mais cela ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Tu peux réessayer encore. Alléluia. Quatrièmement, tu as perdu quelque chose de précieux. Mais tu n'as pas perdu la vie. Alléluia. Oui, tu as perdu quelque chose ou peut-être même quelqu'un de précieux, mais tu n'as pas perdu la vie. Tu es devenue une malheureuse. Tu veux que tout le monde s'apitoie ou tu t'apitoies sur ton sort et tu veux que tout le monde ait pitié de toi. Ngoyao. Et tu te nourris de la tristesse de gens. Non, ma soeur, relève-toi et repars. La Bible déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ecclésiaste 9:4, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même si tu n'es pas un lion, même si tu penses être un chien, mais aussi mort, aussi longtemps que tu as la vie, la Bible dit que tu vaux quelque chose. On était à 40e déclaration. Cinquième et la dernière, tu es de la race de ceux qui se relèvent et qui repartent avec Dieu. Oui, j'aimerais le redire. Tu es de la race de ceux qui se relèvent et qui repartent avec le Seigneur. Ésaïe 40, 30, 31, les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu va renouveler tes forces. Je proclame et je déclare que Dieu va renouveler tes forces. Dieu va te revêtir d'une nouvelle force. Alléluia. Le Seigneur va étendre ta main sur toi et tu vas avancer. La Bible dit, ils prennent le vol comme les aigles. Je proclame et je déclare, tu vas monter comme un aigle. Oui, tu seras étonné de toi-même. Sors de ton deuil. Dieu va te propulser. Tu vas prendre l'envol comme un aigle. Non seulement que des gens seront étonnés, mais toi-même tu seras étonné. Et tu seras fier de repasser par là où Salomon a rendu le jugement. Et tout le monde te verra. Je suis la femme qui s'était couchée sur son enfant, mais Dieu m'a changé. Dieu m'a changé. C'est possible. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est possible de repasser.